anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Vous écoutez Europe 1, il est 11h. Le flash, Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Gabriel Attal dans la Manche ce samedi après une visite de la foire au bulot de Pirou. Le Premier ministre doit se rendre en début d'après-midi sur une exploitation maraîchère touchée par les inondations des derniers mois. Le gouvernement qui a rendu public ce matin des mesures complémentaires en faveur des agriculteurs. Parmi elles, la version définitive du plan de réduction des pesticides. Il y a aussi de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations et l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. Attention, 8 départements en vigilance orange pour les orages aujourd'hui. Ça concerne le sud-ouest, plus précisément sur l'Aquitaine. Le pic est attendu dans l'après-midi. Les automobilistes franciliens, eux, vont devoir prendre leur mal en patience. La réouverture de l'autoroute A13 à la sortie de Paris est retardée. Pas le 1er mai, comme cela a été prévu initialement. La fissure sur cet axe très emprunté d'Île-de-France n'est pas encore totalement réparée. Selon Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club de France, cela pourrait durer encore plusieurs semaines.
On l'avait tous un petit peu pressenti parce que j'en ai discuté avec un peu des spécialistes. On voyait pas comment on pourrait résoudre ça même en 8 jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de communication sur la date de réouverture et je suis pas très optimiste. Donc il faut se préparer à trouver des solutions alternatives, du télétravail, faire des grands détours parce que ça risque de durer. Il y a eu effectivement des demandes de certains hommes politiques de rendre gratuit l'A14 et l'A86. Oui, ça peut être une solution, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Faut pas hésiter à discuter avec les concessionnaires et trouver une solution commune. Je suis certain qu'ils auront une oreille attentive.
Yves Cara, joint pour Europe 1 par Martin Lange. Dans l'actualité aussi, les étudiants de Sciences Po ont bien évacué l'établissement dans le calme la nuit dernière. Cela faisait plusieurs jours qu'ils bloquaient l'établissement en soutien à la cause palestinienne. L'école accepte la tenue d'un débat ainsi que la levée des sanctions à l'encontre des manifestants. Décision jugée scandaleuse par l'UNI. Pour le syndicat étudiant classé à droite, la direction s'est couchée devant les manifestants. Et à Gaza, le Hamas indique ce matin étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve et d'une libération d'otages. Le mouvement islamiste dit qu'une réponse sera apportée après une étude complète de cette proposition. Ça y est, le voilà parti. Le 3 mât français Bélème a largué les amarres ce samedi dans le port du Pirée près d'Athènes et a entamé son voyage vers la France avec à son bord la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le voilier est attendu le 8 mai à Marseille où débutera ensuite le parcours de la flamme à travers le pays. C'est Florent Manaudou, quadruple champion olympique de natation, qui a été choisi pour être le premier relayeur. Un mot de football pour vous dire que le PSG peut décrocher en cas de victoire ce soir contre le Havre au Parc des Princes son 12e titre de champion de France. Coup d'envoi 21h. Hier, Nantes et Montpellier se sont quittés sur un nul un partout en ouverture de cette 31e journée de Ligue 1. Et puis enfin, le pronostic de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Auteuil. Thierry vous conseille de jouer le 16, le 1, le 5, le 10, le 13, le 8, le 4 et le 2. 11h03 sur Europe 1, l'heure de retrouver la table des bons vivants. C'est présenté par Laurent Mariotte.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. De la fourche à la fourchette, vous le savez, c'est ici que ça se passe. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 au sud de Coluche sur Europe 1. Alors ça ne vous a pas échappé, on en a entendu parler toute la semaine. Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On prend des nouvelles de nos agriculteurs dans un instant et vous allez voir qu'il y a pas mal de pertes déjà. La chef Stéphanie Lequelec nous rejoint juste avant midi pour le plat du jour. Alors ça nous intéresse parce que c'est une ancienne candidate de Top Chef. Aujourd'hui, elle est jurée de l'émission. Alors on va profiter de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Est-ce que ces concours, tiens, ont une influence sur notre façon de cuisiner au quotidien, à la maison? Eh bien, on se posera la question. Voici mes bons vivants du jour. Ce samedi, elle est d'humeur joueuse, comme toujours. Qu'est-ce qu'un chef sans son sommelier? Eh bien, elle va répondre à cette question tout à l'heure. C'est notre reine du joli vin qui nous répondra. C'est Ophélie Neyman, alias Miss Glouglou. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
C'est le roi de l'Antigaspi. Aujourd'hui, il en fait voir de toutes les couleurs au petit pois. Sans jeter les causes, bien entendu, c'est Nabil Zemouri, connu sous le nom de chef Enzem sur les réseaux sociaux. Bonjour Nabil.
Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Nabil. Heureux de vous retrouver à cette table. J'adore ce garçon parce qu'il a toujours plein d'idées pour cuisiner sans gaspiller. Et restez avec nous parce qu'il a lancé un défi sur ses réseaux. Et il y a peu de temps pour des étudiants qui sont venus le voir avec une pièce de 2 euros. Et c'est incroyable le repas que vous leur avez fait en collectant ces pièces de 2 euros. On en parlera tout à l'heure. Quel est votre goût de la semaine? Une adresse, une recette, un coup de gueule? Pourquoi pas? Tiens, on va commencer par vous, Ophélie Lehmann.
Avec un coup de gueule, donc.
Ah bah tiens.
Eh oui, parce qu'on a passé un samedi après-midi avec mon petit garçon extrêmement frustrant. Il avait flashé sur une petite publicité pour un livre de cuisine un peu pour enfants, vous savez, basé sur un dessin animé, en l'occurrence Naruto, le dernier peuple de l'air, où vraiment il y avait des super recettes, c'était magnifique à voir en photo. On a donc fait 3 librairies, 20 km en voiture. On est allé finalement dans une librairie en Île-de-France pour trouver ce livre. Et là, déception, c'est ce que j'appelle un faux livre de cuisine parce que toutes les recettes sont infaisables.
Ah là là.
Vous avez des tartes avec 4 farines différentes, farine d'orge, farine de son, farine de noisette, etc. Vous avez un saumon où il faut un déshydrateur. Vous avez des gemmes de cristaux où il faut laisser sécher 3 semaines. Il faut 4 semaines pour faire une recette. Mais oui,
ils sont dingues.
Donc évidemment, aucune des recettes quasiment n'est faisable. Et voilà. Et pour les enfants qui veulent cuisiner, c'est très décevant.
Mais oui, non, mais
c'est plein de frustration pour tout le monde.
Mais sans parler des produits, le coût des matières qui est dans le livre, des farines qui sont parfois excessives, c'est bien d'en parler de manière à donner l'information, mais c'est vrai qu'il faut le dire de manière anecdotique.
Vraiment regarder les livres de cuisine pour enfants. Il y en a des fabuleux.
Mais on peut pousser un coup de gueule général parce que c'est vrai que parfois, certains livres de cuisine sortent avec, je vais vous dire la vérité, je l'ai vu, avec des recettes qui ne sont pas testées, qui sont écrites mais qui ne sont pas testées. Alors ce ne sera pas le cas de notre invité, Stéphanie Lequellec, qui vient nous voir avec mon carnet de cuisine, un très beau livre qui vient de paraître chez Solar. C'est une chef, Stéphanie Lequellec, je vous le disais. Vous la connaissez, vous l'entendez d'ailleurs de temps en temps sur Europe 1. Et je peux vous dire que les recettes de son livre, elles fonctionnent. On en parlera avec elle tout à l'heure. Et Nabil Zemouri, les recette de son livre, elle fonctionne aussi.
Moi, extraordinaire. Alors je les ai toutes testées et de même que le vôtre, qui est tout simplement génial.
Vous êtes gentil, mais c'est vrai que on sait de quoi on parle et on teste et on prend du temps. C'est notre métier, donc on passe du temps. Il faut le dire aux auditeurs sur les recettes. On les teste à la maison, on les teste en équipe, on les teste sur les lieux de tournage. Donc effectivement, elles sont ultra validées.
On est passionné
validées.
Avant d'être businessman, avant de penser livre, on pense cuisine et passion, et c'est ça le plus important.
Votre goût de la semaine, cher Nabil.
Alors moi, je voudrais donner un gros cœur sur tous ces restaurateurs en France, à Paris également, on sait que c'est la vie est chère, à tous ces restaurateurs étoilés qui arrivent à appliquer une formule midi à moins de 50 euros, des entrées plats desserts à 49 euros qui permettent d'ouvrir la cuisine à la jeunesse ou à celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens, mais au moins on peut s'attabler avec de la belle porcelaine, voir un service de qualité, goûter des produits avec un sourcing super pour 49 euros.
C'est un budget quand même, 49 euros.
C'est quand même un budget,
hein.
Mais quand on regarde bien, vu le coût de la vie dans les restaurants un peu plus bistronomiques ou du fast-food, qui ont excessivement augmenté, ça se touche presque. Ça se touche. On a quand même un bon pain avec du beurre qui est servi à table, on a l'entrée plat dessert, on a souvent des amuse-bouches, des mises en bouche. Donc 49 euros pour un meilleur sourcing, de la belle porcelaine, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Non, mais vous avez raison, on en a parlé il n'y a pas longtemps et on en reparlera encore parce que je le sais, chers auditeurs d'Europe 1, vous aimez quand on s'intéresse aux arts de la table et à tout ce qui entoure notre environnement de dégustation.
Mais c'est ça la gastronomie, c'est un ensemble, c'est la porcelaine, c'est le service, c'est le sommelier, c'est la cuisine, c'est le sourcing, c'est ça l'ensemble, c'est ça qu'on appelle gastronomie, c'est pas que la recette.
Vous avez bien raison, c'est le mot qui est typique justement à notre tradition française, c'est que la France, on peut le dire, cocorico, elle a inventé la gastronomie.
Elle a inventé la gastronomie, tout à fait.
De temps en temps, il faut qu'on soit fiers de nous.
Et vous, Laurent, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, votre goût ?
Il est simple, c'est un goût de saison. J'attendais encore un petit peu pour acheter les premières et ça y est, c'est fait. Ce sont les fraises Garriguette.
Ouf.
Voilà, qui sont très parfumées. Il y a de la sifflerette, il y a de la Cléry aussi, il y a de la Charlotte qui, elles, sont plus dodues, plus généreuses, mais que je trouve un petit peu moins parfumées. Mais mes Garriguette, j'ai fait ça hier soir tout simplement. Un petit yaourt Skyr que j'avais dans le réfrigérateur à la vanille. J'aime bien ces yaourts, vous savez, parce qu'ils sont riches en protéines et très peu en matière grasse.
Super.
J'ai pris une cuillère à soupe de mon yaourt que j'ai mis dans un joli bol. Mes fraises Garriguette coupées en morceaux, hop, des zestes de citron de menton que j'avais par-dessus, et ça fait un petit dessert. C'est ce que j'appelle la semi-cuisine, ça, vous voyez, avec des choses qu'on a dans le frigo, dans le placard, et hop, on s'amuse.
Un bon produit, c'est la régalade, c'est le produit. Tant qu'il est bon, de saison, on se régale.
Et on le redit régulièrement, et c'est ce que dit notre camarade Yves Candebord à cette place souvent, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus au niveau des saveurs. 3 ingrédients, 3 saveurs, ça suffit largement. Alors, je vous le disais, chers auditeurs, semaine difficile pour les agriculteurs. On l'a appelé la semaine de tous les dangers. On en a parlé la semaine dernière avec Olivier Pouls à cette table. Et c'est vrai qu'avec les températures négatives de ces derniers jours, les viticulteurs, les arboriculteurs, les maraîchers étaient sur le qui-vive. Vous connaissez des vignerons, des maraîchers qui ont été touchés, vous par exemple, Ophélie ?
Oui, mais j'en connais aussi qui ont réussi à limiter les dégâts. Je pense qu'on en parlera avec effectivement des éoliennes, des bougies, toutes sortes de projets qui sont mis en place pour lutter collectivement. Et en fait, on voit que quand il y a du collectif, ça peut fonctionner.
Mais la solidarité, effectivement, elle sert à quelque chose. Alors, on a reçu sur le groupe Facebook des bons vivants, ça se passe sur la page Europe 1 Facebook, hein, je vous le dis au passage, vous pouvez d'ailleurs réagir en ce moment en écoutant l'émission. On a reçu le témoignage de Sylviane, qui est femme et mère d'agriculteur, producteur de fruits, de kiwis, de pommes et de grenades dans le sud de l'Ardèche. Et je voudrais bien que vous lisiez son témoignage, parce que ça va parler aux auditeurs.
Oui.
Et ça explique bien, justement, ce que subissent nos paysans qui sont très dépendants de la météo.
Alors, je vous lis effectivement ce qu'elle nous a écrit. « Tant que vous n'êtes pas touché de près, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut plus qu'aimer son travail. Il faut y être né, dedans, afin d'accepter qu'à chaque seconde, tout peut être perdu pour la saison et garder une bonne dose de courage pour finir la saison sans aucun revenu, tout en continuant à payer les charges. »
Ben oui, c'est ça.
« Je ne connais aucun métier similaire au métier de la paysannerie qui accepterait de travailler sans rémunération durant plusieurs mois. Il ne faut pas sous-estimer leur travail. Nous avons besoin d'eux. »
Voilà, donc je vous le dis, on suit régulièrement le travail de nos agriculteurs à cette table depuis la création de cette émission. On ne parle pas simplement des paysans quand c'est la crise agricole. Et on va revenir justement sur nos maraîchers, nos arboriculteurs, nos vignerons qui seront avec nous au téléphone dans un instant. On va faire le point justement sur les pertes et sur ce qu'on peut faire pour les soutenir. J'en profite aussi pour vous dire que demain, dimanche, partez en balade sur l'île de Ré avec André Dusselier. Ce sera de 11h à 12h30 dans Balade en France avec William Lémergie. Et à propos d'île, on sera la semaine prochaine sur l'île de Noirmoutier en direct dans la cour de la coopérative agricole. Bah oui, pour récolter la bonotte, la pépite, la star de Noirmoutier. A tout de suite.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chez Ixina, à partir de 2 990 €, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur ixina.fr.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95 € le sachet de 1 kg chez Aldi. Et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Je vous comprends, Ophélie. Elle est toujours énervée avec son Naruto, hein, le livre qu'elle a acheté pour son livre, avec des recettes infaisables. Mais quoi, c'est Naruto?
C'est pas Avatar, c'est Naruto.
Bah, vous avez dit Naruto. Alors, si
oui, c'est pareil.
Si vous savez plus que. Non, ah, bah, c'est peut-être pour Avatar. Ça que ça ne marche pas si vous n'achetez pas le bon livre.
Oui, c'était Avatar, le dernier peuple de l'air.
Vous êtes bien sur Europe 1. La spécialiste du vin, Ophélie Neyman, est avec nous. Le chef roi aux recettes anti-gaspi aussi, Nabil Zemouri, chef NZEM sur les réseaux sociaux. On parlera des beaux défis qu'il lance à ses internautes. tout à l'heure. Ils sont avec moi jusqu'à midi et demi. Alors, je vous le disais, cette semaine, une grande partie de la France a été touchée par des températures négatives. Cet épisode de gel peut avoir des conséquences, on le sait, importantes sur les cultures. Alors, est-ce que nous aurons moins de fruits et légumes cet été? Y aura-t-il moins de vin cette année? On fait le point ensemble. Concrètement, Ophélie, qu'est-ce qui s'est passé déjà cette semaine?
Eh bien, hélas, un scénario de plus en plus classique. C'est le plus redouté, cette période de l'année, c'est le début du printemps. Or, les températures sont plutôt douces en fin d'hiver, tout début de printemps. Donc la végétation démarre sa croissance, les bourgeons arrivent, les fleurs se préparent. Et puis là, tout d'un coup, température négative, jusqu'à moins 5 degrés, et là les bourgeons ne résistent pas.
On sait, Nabil, les régions qui ont été le plus touchées?
Alors, une grande partie de la France, mais les régions côtières ont été épargnées.
J'ai croisé notre camarade Olivier Pouls, qui sortait de la matinale de l'Hénec Monnier tout à l'heure, qui me disait que sur le vignoble jurassien, 40%
exactement.
Du Jura a été touché, et 70% de Cahors.
Oui, et c'est ça, exactement, 60% moi j'avais à Cahors, en Savoie. Une catastrophe, l'Aveyron, pareil, même le Var et le Vaucluse ont été touchés. Et je reviens juste sur le Jura, parce que eux, ils ont énormément de mal en ce moment. Ils ont eu un gel dévastateur en 2017, en 2019, en 2021, et voilà que ça recommence.
Alors les arboriculteurs, les viticulteurs et les maraîchers ont essayé de protéger leur culture comme ils ont pu tout au long de la semaine. Écoutez, tiens, chers auditeurs d'Europe 1, les méthodes utilisées par Xavier Collette de la Ferme du Paradis. Il est maraîcher, il fait de la vente directe près de Lille. Il était au micro de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans la région.
Là, dans le verger, les petits pots blancs que vous voyez, c'est des grosses bougies de cire. On sait que si on en allume 200 ou 250 à l'hectare, on va gagner 1 degré ou 1 degré et demi qui peut réchauffer l'atmosphère générale autour du verger et qui peut du coup nous permettre de sauver les cerises du gel.
Mais c'est pour les pommiers en fleurs que la méthode est la plus efficace. On appelle cela l'aspersion, c'est-à-dire l'arrosage du verger en cas de gel.
On allume là aussi à une certaine température. Le verger du coup se couvre d'eau et avec le gel, ça fait un peu le même principe qu'un igloo. Dans un igloo, vous avez toujours, il fait plus chaud. Et bien là, c'est exactement la même chose. La coque de glace qui se forme autour du fruit ou autour de la fleur va protéger le fruit du gel qui sera là pendant la nuit.
Eh bien, courage Xavier Collette, la Ferme du Paradis, et merci à notre camarade Lionel Gougelot de s'être déplacé chez notre maraîcher arboriculteur. Ça coûte cher, j'imagine, moi, les bougies, là, quand même, non?
Oui, on atteint facilement les 3000 euros l'hectare, parce que c'est à peu près, oui, c'est à peu près 10 euros une bougie, vous en mettez 300, ben voilà, vous faites le calcul. Donc, ça va durer 3 nuits de protection. Mais... Donc c'est un véritable investissement. C'est ça aussi, il y a une véritable inégalité. Parce qu'on le voit dans les vignobles, il y a une méthode encore plus efficace, c'est l'hélicoptère. Vous faites passer un hélicoptère, ça va balayer le vent.
Ah oui,
et
vrai,
ça va permettre de faire circuler les masses d'air. Ça coûte cher.
Donc en fait,
on se retrouve toujours avec la même situation.
Terrible,
des gens qui ont 3 hectares, pas beaucoup de moyens, qui vont tout perdre. Et puis des personnes qui ont plus de moyens. Mais il faut savoir qu'il y a plein de méthodes qui sont en train d'être testées et qui peut-être vont donner de l'espoir. On a des guirlandes lumineuses à infrarouge qui fonctionnent bien. On a testé à Bordeaux, on a une dérogation spéciale pour tester des tunnels protecteurs qu'on met au-dessus. Des buissons, des petits arbustes ou des vignes, évidemment,
ça,
et qui vont couvrir et protéger et qu'on remballe après.
Ça maintient la chaleur.
Exactement.
Oui.
On a des canons à air chaud. Il y a des choses. On est en train de travailler. Il ne faut pas perdre espoir.
On évolue,
on s'adapte.
Alors, pour comprendre les conséquences sur les récoltes, on va passer un coup de fil à Mathieu Verme, producteur de rhubarbe en Picardie. Je suis allé lui rendre visite déjà plusieurs fois. C'est un homme que j'aime beaucoup. Avec son fils, il cultive plus d'une soixantaine de variétés de rhubarbe. C'est lui qui fournit les grands pâtissiers de toute la France. La saison de la rhubarbe, si vous en avez dans votre potager, vous le savez, elle a commencé. Alors on va lui poser la question à Mathieu. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Laurent.
Comment ça va? Comment ça s'est passé cette semaine? Raconte-nous.
Disons que les températures, on a eu du moins 2, moins 3 dans les champs. Et puis des épisodes de grêle, on a été grêlés. Donc là déjà, c'est des impacts sur les tiges, donc elles sont invendables. Et puis il y a des perforations des feuilles.
Voilà.
Et donc là, les températures froides depuis, j'irais, 15 jours, font que la rhubarbe a triste mine. Hein, c'est pas le feuillage n'est pas vert, il est plutôt, j'irais, vert gris.
Elle se développe pas, quoi.
Voilà, elle se développe pas. Elle est complètement. En fait, il a fait beaucoup trop d'eau au mois de mars. Et puis tout a démarré, même les variétés les plus tardives.
Et les tiges sont molles, en plus, j'imagine, quand c'est comme ça, quand il y a trop d'eau. Moi, dans mon potager, ça fait des tiges un peu mollassonnes, non?
Voilà, puis c'est aussi le gel fait que les tiges ramollissent, et c'est pas vendable. Hein.
Il faut tenir jusqu'au sein de glace, Mathieu, c'est du 11 au 13 mai à peu près, les seins de glace, va falloir tenir jusque-là. Quelles sont les solutions pour pouvoir s'adapter, justement, alors, pour vous?
Nous, disons, les solutions à l'avenir, ce serait de mettre de planter des haies un peu autour des champs pour dire de vraiment de casser un petit peu ce vent froid qu'on a souvent au mois d'avril-mai. Et puis, parfois, mettre un léger voile de pétissette, c'est-à-dire un voile qui,
c'est ça, oui.
Qui maintient... On peut gagner 2 à 3 degrés donc, sur le gel, donc ça, c'est pas mal.
Alors, rassurez-nous, Mathieu, il y a quand même quelques espèces qu'on va pouvoir sauver, qu'on pourra retrouver chez les pâtissiers.
Ah oui, non, mais on... Donc bon, on avait commencé à cueillir depuis un mois, pratiquement un peu toutes les variétés, mais... Ah. Mais certaines, bon, si, non, la framboisienne en ce moment est, bon, je dirais pas qu'elle a été un peu sauvée. La Mira va repousser, non, et on espère qu'on aura quand même des températures un peu meilleures dans la quinzaine.
Oui,
de
et
jours
puis,
qui arrivent pour,
puis c'est bien. C'est vrai que la rhubarbe, elle redonne, quoi, hein, voilà, donc, c'est comme les fraises remontantes, on peut en avoir plusieurs fois dans la saison. C'est la bonne nouvelle, si je puis dire.
Bah, disons que oui, on fait 3 à 4 coupes, donc si jamais on a un épisode de grêle, et de gel, bon, on peut sauver la saison avec les 3 autres coupes. Hein.
Eh ben, merci d'avoir été avec nous, Mathieu, en tout cas, et bon courage pour la suite. Hein.
Merci beaucoup également, et puis au plaisir.
Eh ben, à bientôt, absolument, dans vos beaux champs de rhubarbe, avec plus de 60 variétés. Il y a de la Victoria, il y en a des rouges avec des tiges croquantes et fruitées. C'est ça qu'on aime aussi, c'est que dans la rhubarbe, il y a des diversités. Est-ce qu'en cas de perte de récolte, les agriculteurs sont indemnisés, Nabil ?
Alors, l'État a déployé un nouveau dispositif de gestion des risques climatiques, c'est l'indemnité de solidarité nationale.
Ça existe, ça.
Ça existe, ouais. Elle se déclenche à partir de 50% de perte des récoltes pour la viticulture et 30% pour l'arboriculture.
D'accord.
Donc, pour ceux qui ne sont pas assurés, le seuil d'indemnisation par la solidarité nationale est de 40%. Et pour les agriculteurs assurés, 90% des pertes sont prises en charge par l'État et 10% par l'assurance.
Oui, donc il existe des aides quand même. Voilà. Mais bon, ça ne couvrira pas la totalité de la perte de la récolte.
Ah non.
Et on le sait, voilà, c'est un gros impact. En tout cas, soutenons nos maraîchers, nos vignerons. Et voilà, effectivement, ça y est, on croise les doigts. On espère que cet épisode de gel est passé. C'est l'heure de jouer sur Europe 1 avec notre bruit de cuisine. Aujourd'hui, on vous offre un ensemble d'ustensiles Christel, vous savez, la marque fabriquée dans le Doubs. Il s'agit du set Mutine de 9 pièces à poignée amovible avec une sauteuse antiadhésive, une marmite en inox, une casserole en inox avec leurs couvercles, leurs poignées et leurs anses amovibles. Écoutons ce bruit de cuisine qui nous accompagne depuis plusieurs samedis déjà. Alors, on nous a proposé un effeuillage de chou. On est dans le végétal, c'est pas du chou. Écoutez. Ça couine. Alors, vous avez trouvé ? Pour jouer avec nous, c'est simple. Vous envoyez un SMS avec le mot « cuisine » au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. Ne bougez pas, dans un instant, on fait le tour du petit pois avec Nabil Zemouri, chef Enzem. Il a plein d'astuces pour cuisiner le petit pois en faisant des économies. La chef Stéphanie Lequelec sera des nôtres. Et puis, on va s'intéresser aussi aux concours de cuisine à la télévision. Est-ce qu'ils ont influencé notre façon de cuisiner au quotidien ? À tout de suite.
Bonjour, c'est Virginie Giraud sur Europe 1. Ce week-end, je vous entraîne au cœur des grands procès de l'histoire. Galilée, condamné pour avoir osé dire que la Terre tourne autour du Soleil. Jeanne d'Arc, brûlée vive pour sorcellerie alors qu'elle a sauvé la France. Al Capone, emprisonné à Alcatraz pour ne pas avoir payé ses impôts.
Au cœur de l'histoire, week-end spécial grand procès.
Je vous attends cet après-midi à 15h sur Europe 1 et quand vous voulez en podcast sur toutes les plateformes, le site et sur l'appli Europe 1.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux. Ils nous prennent pour des jambons?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. Nous sommes en cuisine et à table jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Bienvenue, hein, si vous nous rejoignez, avec l'As de l'Anti-Gaspi, c'est Nabil Zemmouri, chef Enzem. Voilà, c'est chef Enzem que je voulais dire sur les réseaux sociaux. Et notre experte en vin, Miss Glouglou, Ophélie Neyman, pour les intimes. Alors ça y est, malgré le froid, les petits pois pointent le bout de leur cosse sur les étals. C'est un bonbon de printemps qu'on attend chaque année avec impatience. Hein. La rhubarbe, le petit pois, la fraise, ça y est, on sait qu'on est dans le printemps. On a des belles recettes avec vous, hein, Nabil. Hein.
On a des belles recettes. Alors moi aussi, j'appelle ça un bonbon parce que c'est vrai que les manger crus, déjà, c'est super sucré. Oui. Moi, quand ils sont petits comme ça, on les goûte crus. On a du sucre en bouche. Et puis voilà, on a des recettes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'on en fait avec l'Écosse.
Eh ben alors, on va passer un coup de fil avant à un maraîcher bio installé près de Limoges. C'est Fabien Bru à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Bonjour Fabien.
Bonjour Laurent.
Fils d'agriculteur, maraîcher bio installé à votre compte depuis 3 ans, hein. Vente à oui. La ferme, et puis on vous trouve aussi, hein, au hall central de Limoges, il me semble.
C'est tout à fait ça, du mercredi au dimanche.
C'est bien vous. Alors comment va la récolte en ce moment des petits pois?
Ça va, ça, c'est un peu en avance, mais c'est très bien pour nous. Il y a des beaux grains, et puis... comme disait le chef, ils sont bien sucrés, quoi.
Oui, c'est ce qu'on aime, de véritables bonbons. Alors, vous parlez de la gousse et des grains. On est d'accord, pour bien choisir, il faut que la cosse soit bien renflée, bien remplie, comme on dit.
Oui, pour du petit pois, oui, c'est ça la solution, d'avoir des gousses bien pleines.
Quelle variété vous cultivez, vous, de petits pois?
J'en fais deux. Je fais Carina et Merveille de Calvédon.
Ah, joli nom, ça, oui. Je connais celui-ci. Que trouve-t-on en ce moment chez vous, à part les petits pois?
Eh ben, on trouve les premières courgettes cette semaine.
Ah, déjà,
pommes de terre. Oui, on a bien 15 jours d'avance aussi.
En Haute-Vienne, pommes ça y est, c'est le midi, la Haute-Vienne, maintenant.
Ça y est. Pommes de terre nouvelles, oignons bottes, aillés, radis, épinards.
Pour les petits pois, Fabien, combien de temps entre les semis et la récolte pour nos auditeurs qui voudraient peut-être en planter, là? C'est encore temps.
Alors moi, là, c'est sous serre ce que je récolte actuellement. On les a semés vers le 20 novembre.
D'accord.
Donc ça a passé tout l'hiver sous serre et ça fait...
c'est 5 mois, quoi.
Oui, 5 bons mois.
Ouais. 5 bons mois, ouais. Vous les attendez avec impatience, j'imagine, chaque année, les petits pois?
Quand on commence à récolter les petits pois, c'est vraiment que le printemps est là. C'est vraiment l'un des légumes qui est attendu. Et qui donne envie de manger rapidement au printemps, quoi.
Quelle est votre recette favorite à vous, Fabien, avec les petits pois?
Moi, c'est d'abord, je les aime crus quand je les récolte.
J'imagine, ça, c'est délicieux. Ouais.
Et après, j'aime bien les poêler avec des petites carottes nouvelles, des pommes de terre nouvelles. Et un peu de lardon fumé, et je mange ça tranquille.
Oui, c'est une cousinade des petits pois à la française.
C'est ça.
Eh ben merci Fabien d'avoir été avec nous au téléphone. Fabien Bru, maraîcher les légumes de Fabien à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Et je le redis, hein, au hall central de Limoges, du mercredi au dimanche. Donc demain, vous serez là.
C'est ça, merci Laurent.
Merci Fabien et bonne journée. Et vive les petits pois. C'est vrai que c'est un véritable bonbon. On l'imagine les déguster dans sa serre, en train de les récolter. Hop, il ouvre une gousse. et des petites pépites.
Ah, j'adore. Moi, je pense à une recette dès que j'entends parler de petits pois. C'est pareil, c'est un dérivé des petits pois à la française. C'est juste revenu au beurre très croquant avec un peu d'estragon et de sarriette et une petite écume de lard bien infusée, un œuf mollet au centre. C'est délicieux, c'est très simple, c'est très parfumé.
Vous avez raison, Nabil Izem, les herbes, les petits pois.
Et oui, la menthe, la sarriette, l'estragon, le cerfeuil, ça marche du feu de Dieu.
Alors Nabil, on ne vous appelle pas pour rien le chef de l'Antigaspi. Vous, plus que les petits pois, ce sont les cosses qui vous intéressent. Alors racontez-nous ça.
Effectivement, alors lorsque l'on voit pendant les marchés des sacs remplis de petits pois, on ne peut pas s'empêcher de penser à la quantité de cosses qui va être jetée. Même si aujourd'hui, la crème ou le velouté de cosses sont très popularisés, oui. On en entend tous parler, on sait écosser, on sait en faire des crèmes.
Faire des bouillons, oui.
Voilà. Mais pour peu que l'on possède un extracteur ou un blender, laissez-moi vous donner quand même quelques utilisations un peu plus novatrices. On revient quand même sur le velouté ou la crème. Moi, j'aime les passer à l'extracteur pour en retirer une eau de saveur très pure. C'est vrai que quand on passe ça à l'extracteur, l'eau de cosse de petits pois, c'est quelque chose de très végétal, très herbacé, j'adore. Et on peut accompagner cette
bonne
eau.
Bonne idée, ça. Ouais. Un petit shot comme ça d'eau de petits pois, voilà. Même pour démarrer.
Et
un
on
pain.
Fait infuser à froid, par exemple, des tiges de menthe, des tiges de basilic qui vont infuser à froid ce qu'on jette d'habitude dans notre petite boisson. C'est super.
Et quand on n'a pas d'extracteur, alors?
Et quand on n'a pas d'extracteur, l'astuce, c'est tout simplement passer ça au blender avec de l'eau. Donc on mixe ces cosses de petits pois, bien lavées encore une fois, avec de l'eau, on passe au chinois
accru.
Et on a une eau accrue, tout à fait. On passe au chinois et on a une eau de petits pois qui va remplacer un petit peu celle de l'extracteur.
Ou alors avec une petite passoire très fine, le petit ami qu'on a à la maison.
Exactement.
Il faut toujours avoir un petit ami à la maison, Ophélie Neyman, vous savez ça.
Et
dernière petite utilisation d'ailleurs, on peut les émincer crues, ces cosses de petits pois. Vous savez que dans une vierge à l'huile d'olive, avec un peu de citron, un peu de menthe, on a une sauce vierge de cosses de petits pois. Attention, il faut les faire très finement parce que ça reste filandreux. Et on mettra ça sur un poisson par exemple.
Ah, qu'est-ce que vous en faites de cette sauce vierge alors? À part le poisson,
ça peut être dans une volaille. Mais moi, ce que j'aime surtout avec ces cosses, c'est pas forcément cette vierge, c'est plutôt en dessert. Voilà, j'aime beaucoup utiliser la cosse de petits pois dans les desserts et je fais ça depuis de nombreuses années. Pour vous surprendre, tentez...
Ah oui, ça surprend ça.
Ouais. Mais alors, vous savez comment c'est né? J'ai tenté de faire des bonbons confits de cosse de petits pois, des fruits confits. D'accord. Avec ces cosses et le résultat n'était pas du tout optimal. Il faut le dire des fois quand mes tentatives d'anti-gaspi sont des échecs.
C'est normal, oui.
Parce qu'en fait, c'est tellement filandreux que c'était resté. Oui. Mais ce que ça m'a donné en lieu et place, c'est un sirop de cosse de petits pois. Parce qu'en faisant cuire mes bonbons dedans de cosse de petits pois, j'ai goûté ce sirop et c'est pour moi le meilleur sirop que j'ai réalisé de ma vie. C'était impressionnant. Donc, deux volumes d'eau pour un seul volume de sucre. C'est un sirop à 15, hein, donc on ne met pas la même quantité de sucre et d'eau. Et on laisse frémir pendant une quarantaine de minutes. Et alors là, je peux vous garantir, vous allez vous en rappeler.
Allez le voir sur Instagram, Chef Enzem. C'est bluffant, les recettes anti-gaspi. Et ce que j'aime avec vous, c'est la dimension gastronomique que vous donnez à l'anti-gaspi. On met les petits plats dans les grands avec vous. Alors tout à l'heure, Nabil, on reçoit la chef Stéphanie Lequelec. Une petite recette digne de Top Chef pour conclure autour des petits pois.
Alors, on peut faire quelque chose d'un peu plus pointu.
Pour c'est le mot, voilà. C'est le mot. Soyons pointus avec le petit pois.
Alors moi, c'est une recette que j'ai longtemps servie lorsque j'étais le chef du domaine de la Minotte. C'est un sorbet de petits pois avec petits pois crus et petites fraises. Donc ce sorbet de cosse de petits pois avec ces petits pois crus, c'est très simple. Un extracteur, on fait réduire, donc encore une fois, on obtient ce jus et on y met du miel fondu, hein, pas d'édulcorant bizarre, on est dans quelque chose de bon, le petit pois, on ne va pas y mettre un sucre blanc raffiné.
On ne va pas mettre de l'aspartame.
Voilà, exactement. Et avec ce miel fondu, on y mettra un petit peu de menthe ou un petit peu de basilic. On passe en sorbetière, sorbet de cosse de petits pois, vous allez vous en rappeler aussi.
Waouh, hein, wow. Vous allez le faire.
Ah ouais, ça donne envie.
Ça change d'avatar, les recettes infaisables. On a fait une bonne pub à ce livre. On va recevoir la chef Stéphanie Lequelec dans un instant, Top Chef. Alors, elle a un parcours incroyable parce qu'elle était candidate de Top Chef et elle a gagné la saison 2 et aujourd'hui elle est membre du jury, membre très influente, très écoutée et très appréciée par les candidats. Elle sera avec nous dans un instant. Ce sera l'occasion de revenir sur le phénomène des concours de cuisine à la télé. Est-ce qu'ils changent notre façon de cuisiner au quotidien et au restaurant même? Est-ce que ça a changé quelque chose? Réponse juste après ça.
Europe 1. C'est donc désormais officiel. Le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes. Comme si c'était une guerre, au fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
On sort ce soir? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là?
Hein, pardon, tu disais, excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, tu me le prêtes?
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Heureux d'être ensemble comme tous les samedis de 11h à midi et demi, c'est votre rendez-vous pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons, toujours avec mes bons vivants du jour, Ophélie Neyman alias Miss Glouglou.
C'est moi.
Voilà, Nabil Zemouri alias Chef NZ.
Eh ben, c'est moi aussi.
Vous avez tous des pseudonymes, faut que je m'en trouve un moi alors.
On va trouver.
MC Jean Gabin, mais c'est pris je crois. Alors ce matin, on décrypte le phénomène des concours de cuisine à la télévision. C'est vrai que c'est un succès depuis maintenant 15 ans au moins. Ont-ils influencé notre façon de cuisiner, au restaurant, à la maison. Avant de répondre, déjà, Nabil, Ophélie, est-ce que vous regardez ces concours à la télévision?
J'ai été une grande fervente de Top Chef. J'ai regardé toutes les saisons, on va dire, de 1 à 8, 9. Et puis après, j'ai un peu lâché. Il m'arrive de zapper de temps en temps dessus, mais je regarde peu la télé.
Et ben, la même que Miss Glouglou, la même qu'Ophélie. Je juste regardé aussi, fut un temps, mais j'ai arrêté.
Vous n'avez pas eu envie de vous inscrire? Vous n'avez pas été sollicité, vous, parce que vous avez été chef dans des restaurants? Vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des recettes qui percute chez Fenzem?
Exactement, j'ai été sollicité pendant 4 ans et j'avais très peur finalement de me louper dès la première semaine. Je me disais peut-être que voilà, les abonnés derrière moi attendent beaucoup de moi. Donc j'ai eu très peur de me louper.
Oui, c'est vrai. Oui, puis aussi qu'au montage, ils peuvent garder des choses pas forcément plaisantes.
Tout à fait. C'est aussi
on
scénarisé.
La télévision.
Exactement.
C'est de la télé-réalité.
C'est de la télé-réalité, faut pas l'oublier.
Oui,
donc
oui, exactement.
Voilà, ça peut être à double tranchant.
Alors si on veut voir de belles recettes réalisées par vous, moi je suis encore allé voir votre compte Instagram cette semaine. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1 qui vous découvrent, hein, Nabil Zemouri, chef NZM sur les réseaux sociaux. Vous avez fait un truc complètement dingue. Vous avez reçu 4 étudiants. Hein, ils étaient 4.
Tout
crois.
À fait.
Vous leur avez dit, donnez-moi chacun 2 euros et je vous fais un menu. Vraiment pas cher.
Alors un là, menu, pour, entrée, plat, dessert.
C'est pour répondre à tous ceux qui disent que bien manger, ça coûte cher. Non, quand on cuisine, ça ne coûte pas cher. Racontez-nous ce que vous avez fait alors.
Tout à fait. Je voulais sensibiliser effectivement sur le fait qu'au lieu de manger chacun pour soi quand on est étudiant et qu'on fait face à la précarité, on peut rassembler son budget et se mettre au fourneau tous ensemble. D'un, c'est ludique. Ça veut dire que ça permet de cuisiner, d'avoir un petit moment à table. C'est toujours des bons moments, plutôt que forcément tout le temps se faire le cinéma ou le foot. Hein, on peut faire aussi un peu de cuisine, c'est bien,
sûr.
Ça fait partie de notre patrimoine en France. Et de deux, ça permet de gérer ses budgets. On utilise ses budgets de manière astucieuse et intelligente, et en plus, on se régale. Enfin, j'espère. Mais non, apparemment, les étudiants se sont régalés.
Et ce que vous faites qui est dingue, c'est que vous prenez un produit et vous l'utilisez, mais vraiment jusqu'au bout. L'orange, vous allez utiliser les zestes, après le jus, même une partie de la peau que vous allez confire.
La brique que j'utilisais en entrée feuilles et en briques. Dessert. Voilà. J'ai utilisé les chutes de briques qu'on jette aussi. C'est tout bête, mais ça a du goût et on peut s'en servir. Donc pourquoi s'en passer ? Donc ça a été utilisé de l'entrée au dessert. Moins de 2 euros par personne, entrée, plat, dessert.
Et j'ai vu, c'est dingue, parce que des millions de vues. Des millions de vues.
2 millions juste sur Instagram.
Mais, et l'autre, 4 millions, bah, c'est incroyable. Alors revenons à nos concours de cuisine. Masterchef, le meilleur gâteau de France, Top Chef, dans la peau d'un chef, la meilleure boulangerie de France. Ce sont quelques-unes des émissions qui ont inondé les chaînes de télé ces dernières années. Beaucoup sont passés inaperçus. Il y a peu d'émissions qui tiennent sur la longueur, faut bien le dire. Vous vous souvenez des flops, Ophélie?
Est-ce que vous vous souvenez, Laurent, de Un chef à l'oreille?
Oh, ça me dit quelque chose.
Ça a duré un mois.
Non, mais dis-donc, c'est pas beaucoup.
Chérie, c'est moi le chef, ça a duré moins d'un an. On a eu Hell's Kitchen aussi sur NT1. Donc oui, il y a des flops. Bon, et on a quand même quelques réussites, évidemment. Hein, Top Chef depuis 15 ans. Masterchef qui a duré 5 saisons sur TF1, qui s'est arrêté, qui est repris l'an dernier sur France 2. Donc voilà, on a des venues et des départs.
Alors loin des émissions de Raymond Oliver et de Maïté, c'est vrai que le 21e siècle voit arriver les concours culinaires importés souvent, il faut le dire, chers auditeurs, d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Et il y en a un qui a été marquant et qui a révélé un chef qui est de la le chef préféré des Français aujourd'hui.
C'est Cyril Lignac, oui. Avec Oui Chef.
Exactement.
Exactement. Début 21e siècle, en effet. C'est pas un concours, hein. C'était de la télé-réalité et c'était adapté d'une émission de Jamie Oliver qui s'appelait Jamie's Kitchen. Et il prenait, et ça j'adorais le concept, des jeunes en difficulté et il les aidait, il les accompagnait pour monter leur propre resto devant les caméras. Donc, loin du concours avec cette pression, on avait plutôt une émulation,
c'est vrai,
un enthousiasme.
C'est pas un concours,
beau.
C'était travailler comme un docu-réalité, comme on dirait.
Exactement.
Aujourd'hui, mais ça a donné naissance ensuite au concours façonné de télé-réalité par la suite. On a un extrait de ça?
Oui.
Ah bah tiens, on
oui,
écoute.
Chef.
Est-ce que t'as envie de continuer? Est-ce que t'as envie de travailler avec moi? Est-ce que t'as envie que je t'apprenne? Est-ce que t'as envie de prendre le temps de réussir? Non, mais si t'as envie de ça, oui, je suis là. Si t'as envie de rentrer à Marseille pour aller voir les collègues, je suis pas là.
Oui, chef. J'attends pas.
Oui, chef.
Fort, putain.
Oui, chef.
Et voilà, oui, chef. Et il a monté ce restaurant qui était juste derrière Europe 1, là, rue Cauchy. Mmh. Il a toujours ce restaurant, Cyril Lignac, ça s'appelle Ischia aujourd'hui, et c'est un restaurant italien. On le salue parce que je sais qu'il nous écoute régulièrement le samedi, Cyril, et il vient nous voir quand il veut, et il est le bienvenu à cette table. Générique de Top Chef, obligé de l'écouter aussi. Ah ouais. Pourquoi Top Chef est devenu incontournable alors, Ophélie, Nabil, à votre avis?
Bah, je pense déjà il y a une grosse histoire aussi de sympathie, d'affiliation avec les chefs qui sont sélectionnés. C'est vrai qu'on se prend d'amour un peu pour ces chefs.
Oui,
donc le casting est important,
oui.
Et aussi aux candidats. Donc ça c'est le premier point. On parle de télé-réalité hein, presque. Hein. C'est pas que de la cuisine. C'est vraiment voilà. Et puis bah il y a, j'ai l'impression aussi une forme de renouvellement dans Top Chef qui fait que la première saison et la saison 15 ont rien à voir.
C'est vrai. Il y avait des épreuves coup de feu au début, l'épreuve des chefs et ça a changé. Il y a des formats d'épreuves qui on en parlera avec Stéphanie Lekelec qui sera avec nous dans quelques minutes parce que je le redis, gagnante de la saison 2 et aujourd'hui jurée aux côtés d'Hélène Darroze et de Dominique Crène, la fameuse équipe orange. Ces concours, on peut le dire aussi, ont révélé une nouvelle génération de cuisiniers quand même.
Oui, on a vraiment des cuisiniers qui aujourd'hui sont devenus incontournables. On peut citer, bon, évidemment Stéphanie Lekelec, Jean Humbert quand même, qui
bien
a
sûr
repris là, le Plaza Athénée à la suite de Ducasse. Hein. Et puis on a aussi des adresses partout en région. On a Samuel Albert de la saison 10 avec les Petits Prés à Angers. On a Guillaume Pape aussi de la saison 10, Lambrun à Brest. On en a plein, je peux vous en citer. On a Tabata May de la saison 3.
Oui, on l'a vu ici,
à Lyon.
Oui.
Voilà, on a Maurice Acco, évidemment de la saison 1 qui a fait Moussuquet à Paris.
Et puis, vous savez, moi j'échange beaucoup avec les candidats de Top Chef. J'en connais la plupart, surtout qui même ceux qui ont gagné. S'il y a un truc qui ressort à chaque fois, c'est une expérience à Top Chef, ça vaut presque 2-3 ans d'expérience gagnée.
C'est
un accélérateur et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs qui se sont retrouvés étoilés par la suite.
C'est un accélérateur de vie, oui.
Même s'ils n'ont pas gagné Top Chef. Hein.
Ça a changé la façon de cuisiner au restaurant,
ah
hein,
oui,
un peu Top Chef.
Ah
hein.
Oui, oui.
Ça a donné un courant.
Et ça a changé surtout l'image avec un respect gagné parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et je pense que de la part des clients, ça a amené un respect qui n'existait peut-être pas à ce point. En bémol, moi ce que je regrette, c'est que ça a beaucoup mis l'accent sur le visuel. Avant Instagram, on s'est mis à faire des plats télévisuel, des plats beaux à regarder. Et moi, je vois ces plats qui tournent à la télé et je me dis, mais ça va être froid, mangez-les avant que ce soit glacé.
On posera la question à Stéphanie Lequellec, est-ce qu'il mange chaud? Tiens, on se posera la question parce que moi, j'ai fait partie d'un jury d'un concours de cuisine une fois et c'était pas le cas. Alors, on va jouer, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Nous vous proposons aujourd'hui un ensemble d'ustensiles Christel fabriqués dans le Doubs. Il s'agit du set Mutine de 9 pièces à poignée amovible et nous sommes avec Xavier au téléphone. Bonjour Xavier.
Bonjour Laurent.
Bonjour Xavier.
Bonjour à toute l'équipe des Bons Vivants.
Ben, il vous salue. Salut. La belle équipe. Vous nous appelez d'où Xavier?
Alors je vous appelle précisément de Berck-Plage, où je suis en villégiature
pour
une semaine.
Ah, les grandes plages de Berck-sur-Mer, Berck-Plage. Vous avez assisté au festival de cerf-volant?
En plein dedans.
Ah oui, c'est magnifique.
Actuellement, c'est cette semaine.
Ah, c'est beau ça.
C'est magnifique.
Qu'est-ce qu'on mange chez vous?
Et nous avons beau temps. Nous allons manger, comme nous sommes à Berck, les moules de Bouchot.
Ben bien sûr.
Direct berquoise, directement chercher cette.
Quelle belle région. Ah, le Pas-de-Calais. Quelle belle région. La terre et la mer, là aussi, réunies. Écoutons le bruit de cuisine. On espère qu'il va tomber avec vous, Xavier.
Ben, j'espère.
La queen. Il n'y en a peut-être pas beaucoup encore dans le Pas-de-Calais en ce moment. Sous serre. Alors, à quoi pensez-vous, Xavier?
Alors, Laurent, ne serait-ce pas l'action de retirer le cône de la base d'une endive pour retirer son cœur à cause de l'amertume?
Oh bah oui, mais là je viens de dire qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le Pas-de-Calais. L'endive, c'est la Miss France du Pas-de-Calais, c'est une star.
Ah oui.
Non, c'est pas l'endive, mais c'est vrai.
Ah, c'est pas l'endive.
Mais c'est bien vu parce que ça pourrait faire ce bruit quand on retire le petit cône effectivement dans lequel se concentre l'amertume dans la base de l'endive. Ah mince, Xavier.
Oh, bah, c'est dommage.
Mais vous savez,
c'est pas grave.
Non, vous n'avez pas tout perdu. Je vous envoie avant qu'elle arrive, mais elle est d'accord. Mon carnet de cuisine, c'est le beau livre de Stéphanie Lequellec
qui vient de paraître chez
Solar. Et il y a des endives. Il y a des endives parce qu'elle fait une recette pour faire aimer les endives à son mari justement.
Ah, très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas.
Bon week-end Xavier, merci d'avoir été avec nous et on revient tout à l'heure après les titres d'Europe 1 Midi Week-end avec ce bruit de cuisine qui tombera peut-être de la musique en attendant d'accueillir Stéphanie Lequellec. On écoute Alain Souchon avec le Bagad de Lang Biwei. C'est une chanson de 78.
Tu la voyais pas comme ça ta vie. Pas d'attaché-caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça, l'histoire. Toi, t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en LED, sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Sans Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le Bagad de Lang Biwei. Tu la voyais pas comme ça ta vie. Tapio capotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen. La grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu la voyais pas ici l'histoire. Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir. Comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne. Loupé capitaine, bateau de semaine. d'une drôle de fête foraine. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es.
Ah, un tube, mais quel artiste, qu'est-ce qu'on aime l'écouter et l'entendre. Alain Souchon sur Europe 1 avec le Bagad d'Alan Biway. C'était en 78, je vous le disais, hein, 1900 bien entendu. Merci d'être avec nous sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à midi et demi avec mes bons vivants du jour, Ophélie Neyman et Nabil Semouri. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Ah, ben, ça va vous suivre. Enfant, elle s'enfermait dans la cuisine de sa grand-mère pour préparer des sablés. Elle aimait aussi écosser les haricots pour la soupe au pistou de son grand-père. Récompensée de 2 étoiles au Michelin pour son restaurant La Seine à Paris, ses enfants sont ses 3 étoiles. Gagnante de la saison 2 de Top Chef pour les 15 ans, elle fait partie du jury. Ça, c'est incroyable. C'est unique, je crois. Stéphanie Lequellec est notre invitée. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants, bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent.
Un
parce que on vous retrouve de temps en temps aussi l'été avec le camarade Olivier Pouls, hein, donc à la tête du restaurant La Seine dans le 8e arrondissement, avec votre mari David, un restaurant dédié aussi aux produits de la mer qui s'appelle Vive Maison Mère.
Maison Mère, MER.
Jeu de mots, avenue des Ternes. Et puis, vous avez des boutiques aussi qui font traiteurs et pâtisserie maintenant.
Hein. Absolument, MAM.
Exactement, donc du boulot quoi. Hein.
Ça va, on s'occupe Laurent, on s'occupe.
Et un petit peu de Top Chef. Alors, on parlait des concours de cuisine à la télévision. Un mot sur ce concours qui, on peut le dire, a changé votre vie.
On peut le dire, bien sûr, on peut le dire, parce que c'est une mise en lumière extraordinaire du travail d'une cuisinière ou d'un cuisinier. Donc, ça a été un accélérateur génial pour moi. Et puis là, 13 ans après, revenir pour boucler la boucle, finalement, et faire cette transmission et ce partage d'expérience avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est formidable.
C'est plus qu'un clin d'œil, ça. Alors, on se posait la question avec Nabil et puis avec Ophélie. Est-ce que ces concours ont changé notre façon de cuisiner au quotidien? Depuis 15 ans, Top Chef, est-ce que vous pensez que ça a eu une influence sur la cuisine du quotidien?
Je pense, parce qu'ils sont finalement la photo un petit peu de l'époque culinaire. Et finalement, avec ces générations de cuisinières et cuisiniers qui avancent, qui évoluent, aujourd'hui, il y a des 25-30 ans, moi je les ai rencontrés sur cette saison de Top Chef, qui ont beaucoup voyagé, qui sont très curieux, qui ne s'interdisent rien, donc qui sont presque finalement la preuve vivante de ce qu'est la cuisine aujourd'hui. En France, qui s'est ouverte aussi sur le monde. Donc oui, ça lance des courants, effectivement, parce qu'il y a un côté très influent aussi d'un concours comme Top Chef sur cette jeune génération.
Oui, et ça infuse, effectivement, dans la cuisine du quotidien. Vous parlez de cuisine voyageuse, là vous venez nous voir avec votre livre « Mon carnet de cuisine », votre tout nouveau livre qui vient de paraître chez Solar. « Mon carnet de cuisine, recette facile pour la famille et les amis, en 30 minutes max ».
Max, ouais.
Et alors moi, ce qui m'a surpris, je connais bien votre cuisine, hein, je suis déjà
venu
manger
plusieurs... C'est vrai, depuis le début, Laurent,
mais
fidèle de...
Votre côté voyageuse, effectivement, hein, vous jouez... Avec l'Asie et avec la Méditerranée.
C'est finalement le premier livre, effectivement, où je sors un peu de mon côté franco-français, que j'assume complètement dans mes maisons et dans mes restaurants, parce qu'il fait partie de mon identité profonde. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'adore les cuisines du monde en général, je les pratique très peu dans mon restaurant, mais du coup je les pratique à la maison, et c'est ce que j'ai voulu partager, entre autres, dans ce carnet de cuisine, c'est vrai, avec quelques influences un petit peu grecques, un petit peu méditerranéennes en général, Nord-Afrique, et puis l'Asie, évidemment, que j'adore.
Alors, pour revenir à Top Chef, vous êtes jury cette année, hein, je le disais, avec Dominique Crène et puis Hélène Darroze. Comment ils sont les jeunes de cette saison? Alors, vous les trouvez comment?
Je les ai trouvés formidables. C'est la compète sans lettres. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a des très belles valeurs de cuisine comme on a au sein de nos brigades. D'abord, entre ces deux brigades. Ouais, grise et orange qui finalement s'affrontent, mais avec beaucoup de bienveillance. Et ils sont mordus de cuisine. C'est-à-dire, je les ai vus pendant le tournage aller acheter des livres de cuisine. Bricoler dans les cuisines des studios des uns et des autres des choses parce qu'ils avaient parlé d'une influence, d'un truc, d'une technique, etc. Donc en fin de compte, j'ai été très rassurée du fait qu'ils venaient pas faire de la télé, mais ils venaient vraiment faire de la cuisine.
Ils venaient cuisiner. Mmh. La manière de juger, elle a changé depuis l'époque où vous étiez, vous, candidate?
Le principe un petit peu de l'émission a changé, puisque moi, il n'y avait pas de brigade à mon époque. Il y avait cinq chefs jury et ils nous jugeaient. Il n'y avait pas ce partage et cette transmission qui est quand même très appréciable aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cet échange avec eux. J'aime passer en cuisine, j'aime échanger sur leurs idées, j'aime essayer de les emmener un petit peu plus loin dans leurs réflexions, dans les marqueurs de leur cuisine, dans la sensibilité qu'ils peuvent apporter. En fait, c'est ça qui est très enrichissant. C'est l'échange culinaire qu'on peut avoir et pas seulement du jugement pur et dur.
Alors Stéphanie, il y a une chose qui ne change pas dans Top Chef, au grand désespoir de Philly Neyman que vous pouvez lire dans le journal Le Monde, hein, c'est la spécialiste du vin, c'est la place du vin dans ce concours.
Mais très compliqué, pour des raisons, vous savez, de loi, etc.
Alors, je tiens, moi, simplement à rappeler que si ça n'évolue pas dans Top Chef, la loi, elle évolue. On a un amendement, quand même, qui est passé en 2015-2016, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, sur la distinction entre la publicité et l'information œnologique, à savoir, je vais citer, n'est pas considéré comme publicité le contenu relatif à une région de production, un terroir, patrimoine culturel lié à une boisson alcoolique disposant d'une identification de qualité ou d'origine. Ça veut dire quoi dans les faits ? Ça veut dire qu'on peut parler d'un vin si on mentionne ses qualités organoleptiques liées à son terroir. C'est ce qui fait que dans le monde, comme sur la table des bons vivants, on peut expliquer pourquoi tel vin de Loire, de Cahors, est assorti. Et c'est pas tout à fait vrai parce que je me souviens, les premières saisons dans la guerre des restos, il y avait quelques bouteilles. Et c'était assez amusant d'ailleurs de voir que les connaissances étaient assez inégales d'un candidat à l'autre. Mais moi, ça me réjouissait. Et quand je vois les top chefs américains où effectivement il y a toujours une question sur la cormée vin, sur certaines épreuves, il faut toujours expliquer pourquoi tel vin est choisi. Il y a une vraie pédagogie du vin qui est totalement absente chez nous. Et ça me fait mal au cœur, même sur les derniers.
Je trouve très intéressant et très juste votre remarque. Et de la même manière, les métiers de la salle aussi. C'est vrai que, alors bon, je ne sais pas s'il y aura une saison 16 et si j'en ferai partie, mais c'est vrai que j'aimerais bien souffler sur une prochaine saison des épreuves qui mettent aussi en lumière les métiers de service, les métiers de sommellerie et de la viticulture, parce que vous avez raison, c'est le lien évident de ce qu'est une bonne table et de ce que fait la gastronomie française.
On a fait justement l'éloge du service en salle la semaine dernière à cette table avec une démonstration de crêpes fusettes. Vous pouvez la voir d'ailleurs sur nos Instagram. Nombreux, chers auditeurs, à réagir à ça. Effectivement, on a besoin aussi de retrouver ces bons métiers de la salle.
Mais parce que c'est ce qui fait la table en France, de toute façon. C'est pas. On a beaucoup de chance. C'est vrai que la cuisine est tout à fait souvent mise en lumière, presque trop parfois. Mais il ne faut pas oublier que finalement, un cuisinier sans un service en salle, sans la sommellerie, sans les métiers de pâtisserie, sans tous ces métiers de l'ombre aussi, on a besoin de tout le monde pour créer une expérience, un moment exceptionnel à table.
Et puis, un cuisinier, il a aussi besoin de partager sa cuisine avec de beaux livres comme c'est le vôtre. Mon carnet de cuisine paru chez Solar, saumon zaatar prêt en 5 minutes chrono, une épaule d'agneau confite à oublier au four, hop là on fait autre chose pendant ce temps-là, des moules gratinées, il y en a une que j'adore, c'est le cordon bleu XXL, alors là on en parlera.
Vous pouvez être 8 autour de la table, hein,
Y aller. Vous avez réussi, j'en parlais tout à l'heure avec notre auditeur, à faire manger des endives à votre mari aussi grâce à vos recettes. Hein. On va les détailler les recettes de ce beau livre. J'en profite pour vous dire avant qu'il y a un nouveau rendez-vous sur Europe 1 à partir de lundi, notez bien. C'est Europe 1 Soir, nouvelle formule présentée par Pierre de Villeneuve. Très très bonne nouvelle, écoutez bien. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter, débattre de l'information de la journée avec des invités. Et puis les voix d'Europe 1 réunies autour de Pierre. Europe 1 Soir donc, de 19h à 21h dès lundi avec Pierre de Villeneuve, voix historique d'Europe 1. Dans un instant, c'est l'heure du plat du jour, signé par la chef Stéphanie Lekellec. Des recettes faciles, hein, vous le promettez pour nos auditeurs.
Hein. C'est un pari, vous allez voir, qui va être tenu. Garantie.
Et puis, régalade assurée. C'est juste après les titres d'Europe 1 Midi Week-end. A tout de suite.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants. On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi l'élevage bovin herbagé est-il plus durable ?
Eh bien, il l'est parce que l'alimentation que l'on donne à nos bovins est composée en moyenne de 84% de produits issus de nos fermes.
D'accord. Et de quels produits s'agit-il exactement ?
Bon, bien sûr de l'herbe hein, en premier, mais aussi de céréales, de blé, d'orge, de maïs, de tournesol. Ouais. L'avantage, ce sont des productions en grande partie qui sont non consommés par l'homme.
Et qu'en est-il de la fertilisation des sols ? Autrement dit, comment nourrissez-vous vos terres ?
Sur la partie culture, 35% des sols de notre filière sont fertilisés avec des lisiers, des fumiers. Ce sont des matières naturelles.
Très bien.
Et ça nous permet de réduire l'utilisation des engrais de synthèse et de limiter le transport des fertilisants.
Merci beaucoup, Marie-Vonne.
On en parle.
Consultez nos sources d'information sur interbev.fr, rubrique enjeux sociétaux. Rapport Interbev RSO 2021-2022 et étudie dès 2021.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar Pays Gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Chez But, qui dit promo dit
envie de changer de déco.
Voilà, c'est ça.
En ce moment, But vous fait 20% de remise des 3 produits achetés sur l'ensemble de l'univers déco. Oui, moins 20% pour décorer toute votre maison.
Voilà, voilà.
Sélection produits et conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais.